Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. La Calédonie développe sa capacité de production d'énergie renouvelable. Plusieurs projets sont en cours. Quel est l'avenir de la filière? Peut-on d'ailleurs parler d'une filière et peut-elle générer des retombées? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons voir dans cette émission avec les cinq invités qui sont sur ce plateau. Amandine Mignana, qui est responsable de Total Énergie Renouvelable Pacifique. Antoine Lehéloco, qui est responsable d'Acuo. Christophe Lapousse, le directeur d'Alizé Énergie, filiale d'Engie en Calédonie. Fabien Milesi, le directeur d'Enercal Énergie Nouvelle. Et Julien Barras, le président du cluster Synergie. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors très rapidement, peut-être pour savoir ce que les uns et les autres sont en train de faire au niveau des énergies renouvelables, un mot de chacun sur les projets qui sont en cours et que vous êtes en train de développer ou qui sont encore dans les cartons. On commence avec vous, Amandine Mignana.
Avec plaisir. Voilà, comme vous l'avez dit, on est producteur d'énergie, donc Total Énergie Renouvelable. Et je vais me focaliser, par exemple, sur l'actualité du moment, parce qu'on a eu une couverture médiatique dernièrement sur des projets, des grands projets structurants positionnés à Boulou-Paris. Donc nous, on développe actuellement un projet de grande centrale solaire de 60 MW de puissance installée. À côté des centrales déjà existantes, des deux premières tranches de Boulou-Paris 1 et 2. Voilà. Aujourd'hui, c'est un projet qui est complètement lié à la batterie de Boulou-Paris. Et donc, ça, c'est développé par Acuo. Donc, c'est Antoine qui prendra le relais, peut-être.
Eh bien, voilà, Antoine de Eloco, allez-y. Vous êtes responsable d'Acuo en Calédonie.
Donc, nous, on a des centrales solaires sur le réseau, souvent liées avec de la production solaire et de la production agricole. Et là, on vient de valider les travaux pour la construction d'une batterie à Boulou-Paris, qui sera la plus grande batterie de France. Et donc, c'est un gros outil de stockage qui permettra de stocker 50 MW de puissance et 150 MWh par jour d'électricité renouvelable pour l'injecter sur le réseau au moment où il n'y a plus de soleil.
Christophe Lapousse, quels sont les projets menés par Alizé Énergie?
Alizé Énergie intervient sur du photovoltaïque, de l'éolien. On travaille également à Wallis et Futuna avec des collègues aussi de Tahiti. Et sur la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, on a des projets qui vont arriver sur l'IFU l'année prochaine, et Bouraille et probablement la côte Est. Donc voilà, on travaille sur pas mal de petits projets, moins grande taille, mais pas mal de petits projets.
Et Fabien Milesi pour Enercal.
Enercal Énergie Nouvelle, c'est une filiale d'Enercal. Le groupe Enercal aujourd'hui représente plus de 53% de la part de renouvelables là, sur le territoire. Des projets fraîchement autorisés, notamment la grosse centrale de Népouy, 30 MW hein, sur 30 hectares de panneaux là, sur la presqu'île de Népouy. Et on continue le développement sur l'autonomie des îles, notamment l'île des Pins, Marais et Ouvert.
Alors vous n'avez pas de projet précis, Julien Barras, mais vous êtes le président du cluster Synergie. Rappelez-nous quelle est l'origine de ce cluster et quel est son rôle.
Oui, je représente le cluster Synergie. Donc tout d'abord, Synergie, c'est environ 35 adhérents, 1250 emplois représentés. Un chiffre d'affaires, certes, avec les chiffres d'affaires d'Enercal EEC, de 60 milliards de francs pacifiques. On représente cinq catégories, en fait les gros producteurs d'énergie renouvelable, les petits, ceux qu'on va voir sur les toitures de chez monsieur, madame, tout le monde. Le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, l'écomobilité, c'est surtout les véhicules électriques, et les bureaux d'études qui vont travailler sur tout ce qui est économie d'énergie. Donc voilà, donc nos activités, c'est vraiment promouvoir, c'est l'utilisation des énergies renouvelables, la promotion aussi de la non-consommation d'énergie, voilà. Et donc un peu de coordonner les problématiques de la filière avec les politiques, avec la CE, avec toute autorité publique ou privée.
Alors c'est une technologie, ce sont des technologies qui changent rapidement, hein, tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Si on comprend bien, aujourd'hui la partie production est relativement, je ne vais pas dire facile, mais relativement maîtrisée. Le stockage est encore un peu plus compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui on a quand même, à travers vos projets et la manière dont ils s'articulent, on va dire une prise en compte totale du secteur des énergies renouvelables, de la production jusqu'à la distribution? Est-ce que, à vous qui êtes tous autour de la table, vous représentez finalement, vous couvrez l'ensemble de ce que représentent les énergies renouvelables? Je ne sais pas qui veut répondre.
Commencer. Donc oui. La production, aujourd'hui, on est plutôt Christophe orienté sur la production. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau pour les auditeurs, c'est que l'énergie, où qu'on soit, elle coûte cher à produire. Généralement, les gens le comprennent, mais c'est d'autant plus cher.
Ils le comprennent aussi quand ils voient la facture.
Exactement. Mais c'est d'autant plus cher en Nouvelle-Calédonie quand vous êtes une île isolée de pas mal de hubs avec une petite population de 250 000 personnes. Donc, en fait, les énergies renouvelables permettent de limiter les impacts venant de l'extérieur. Typiquement, le gazole a un certain coût. Il y a 2 ans, il valait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Le charbon, il y a 2 ans, il valait 4 fois le prix d'aujourd'hui. Donc, en fait, on n'est pas à l'abri d'évolution de cette nature. Et les énergies renouvelables permettent, en fait, de limiter les impacts venant de l'extérieur. C'est un des principaux points, bien sûr, les émissions de dioxyde de carbone. Mais bon, voilà, il y a pas mal d'éléments et c'est un des points principaux.
Oui, allez-y, Antoine Leveloco.
Donc, voilà, nous, on est vraiment des producteurs. Si on veut compléter. Pour avoir la totalité du secteur, il faut rajouter donc Enercal qui s'occupe du transport et les distributeurs qui sont donc EEC et Enercal.
Mais là, on parle que de la production, pour l'instant, production d'énergie et stockage, parce que le stockage est un enjeu important. On y reviendra. Julien, allez-y.
Pour compléter le verdissement dans notre système électrique, il y a vraiment la production, donc on va parler Christophe. Mais effectivement, il y a aussi l'adaptation de nos réseaux électriques pour pouvoir gérer l'ensemble de ces nouvelles sources de production renouvelables qui sont plutôt dispatchés sur tout le territoire. On n'est plus sur des points centralisés, mais on couvre l'ensemble du territoire. On travaille sur les réseaux très haute tension, les réseaux de distribution. Il y a toutes les échelles du réseau qui doivent s'adapter. Enercal et Engie travaillent sur ce secteur-là. Il y a toute notion de conduite de tout ça. Donc il y a des moyens qui ont été développés par le système électrique pour pouvoir piloter ça en temps réel. Donc ça complexifie un petit peu le réseau, mais c'est très intéressant. Et il y a aussi des nouveaux moyens, on a parlé, le stockage d'énergie qui devient maintenant primordial. Mmh.
Julien Barras, et puis après Amandine.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à tout moment, la production d'énergie électrique doit être égale à la consommation d'énergie électrique. Mais à chaque instant, c'est pas de l'ordre de la seconde, c'est de l'ordre de l'instant. Et donc c'est là où effectivement des projets structurants tels que les batteries électriques vont entrer en œuvre. Pour permettre de corréler cette production qui est parfois instable ou non prévisible du photovoltaïque et ou de l'éolien avec des moyens de production classiques, dits thermiques, qui utilisent du fioul ou du charbon.
Mmh. Amandine Mignana.
Mais pour compléter tout ce qui a été dit, je dirais qu'en termes de production d'électricité d'origine renouvelable, on va aujourd'hui rencontrer 3 grands types d'énergie, de ressources en tout cas, qui vont arriver sur le réseau, qui permettent de délivrer cette énergie sur le réseau. Donc on a le photovoltaïque, qui est celui qu'on voit de plus en plus se développer depuis une dizaine d'années à peu près. Historiquement, il y avait quand même beaucoup d'éolien. Hein. On a du petit éolien et puis une ferme éolienne.
Mais apparemment, l'éolien n'a plus trop le vent en poupe, si j'ose dire.
Alors, manifestement, politiquement, effectivement...
À notre grand regret.
Là, on a... Voilà.
Oui, j'imagine.
C'est pas particulièrement porté, mais bon, il y a de la capacité encore à faire de l'éolien. Et puis, il y a aussi une ressource qui est essentielle et qui est là, pour le coup, historique. C'est la production hydroélectrique avec le barrage et d'autres centrales hydroélectriques qui sont opérées aujourd'hui par Enercal. Mmh. Ce qu'on voit se dessiner maintenant, c'est ce qui va arriver, en tout cas ce qui devrait arriver, ce que nous on porte, en tout cas au niveau de la filière, au niveau de Synergie, et nous les producteurs de catégorie 1, c'est l'énergie décarbonée et compétitive qui passe aujourd'hui par le développement du photovoltaïque de grande taille, parce qu'il y a des ambitions pour la métallurgie. Et là, je laisse la parole pour qui veut bien répondre.
On va en parler.
Juste avant de parler de la métallurgie, peut-être pour l'éolien.
J'ai d'autres questions aussi.
Okay, d'accord.
Mais allez-y. Non,
donc pour l'éolien, en fait, il y a une complémentarité qui est importante à préciser, c'est que l'éolien produit à peu près 40% durant la nuit, tout au long de l'année. Donc en fait, il n'y a pas nécessité de stocker cette énergie qui pourrait être en surplus durant les pics de soleil. Donc c'est quand même un point important. À souligner.
Oui, Antoine Leveloco.
Et voilà, et sur des projets éoliens, il y a encore du potentiel. Par contre, voilà, il y a des impacts qui sont différents par rapport au solaire. Par exemple, c'est plus visible. C'est sûr, sur le paysage, c'est un impact qui est plus fort. Donc ça demande plus de temps, plus de concertation avec les gens, s'assurer qu'ils trouvent un intérêt au projet. Mais c'est quand même une énergie qui a beaucoup d'atouts et sur lequel on ne doit pas mettre de côté de façon idéologique, parce que de toute façon, il n'y a pas d'énergie parfaite, elles ont toutes des inconvénients, des avantages, et ce qui compte, c'est de trouver le bon mix et de tout développer de façon intelligente.
Alors, comme vous avez, c'est vous, Amandine Mignana, qui avez prononcé le mot d'énergie compétitive, hein, l'énergie renouvelable. On est dans un jeudi de l'économie, il y a des acteurs et des opérateurs privés ici, d'autres qui sont publics ou semi-publics. Quand on parle de compétitivité de l'énergie renouvelable, ça veut dire que les investissements à faire pour produire une énergie renouvelable sont moindres que tout autre système. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous vous engagez aussi dans ce genre de projet ?
Là, aujourd'hui, il faut voir que je donne un exemple, par exemple, de la troisième tranche de Boulou Paris, hein, qu'on va faire pour 60 mégas. C'est un investissement à peu près de 6 milliards. Et ce sont une énergie qui, aujourd'hui, sort entre, on va dire, 7 et 10 francs 1 kWh. Donc, alors, ensuite, on va rajouter le système avec le stockage et l'exploitation. Mais le photovoltaïque, en tout cas, permet de délivrer au réseau une énergie qui, d'une part, aujourd'hui, est plus compétitive que ce qu'on connaît du fossile, et d'autre part, qui permet de stabiliser dans le temps, hein, Christophe l'évoquait tout à l'heure, le fait de la non-maîtrise ou la volatilité des ressources d'origine fossile. Hein. On ne sait pas ce que va coûter le charbon demain, ni le gasoil. On a cette dépendance parce qu'on ne les produit pas localement. Et ça, c'est aussi un élément qui vient peser par rapport à de la perspective qu'on pourrait rechercher, c'est-à-dire la stabilité des tarifs dans le temps, parce qu'aujourd'hui, par exemple, une centrale solaire qui vient une mise en service actuellement, on est sur un contrat d'achat de l'énergie qui est sur 30 ans. Donc on a stabilisé le coût de cette énergie-là sur 30 ans. Et ça, c'est un point qui est fondamental quand on est sur un système comme ça qui est non interconnecté, hein. Christophe l'a évoqué aussi, de dire, en fait, on est seul. Mmh. On est seul sans avoir de secours qui pourrait arriver d'autres endroits, d'autres réseaux.
Antoine Lehiloco.
Oui, si on peut revenir sur le coût, justement, du stockage. Nous, la batterie, c'est un investissement qui est très important. Hein, c'est 9 milliards de CFP. Donc, forcément, l'énergie, et ça ne produit pas d'énergie, ça la stocke. Donc l'énergie qui est stockée par la batterie, forcément, cette énergie-là, entre la production, par exemple, si elle est entre 7 et 10 francs, qui passe par la batterie, celle-là, elle est chère. Mais en fait, ce que ça permet, c'est que ça permet d'injecter des grosses quantités d'énergie renouvelable qui ne passent pas par la batterie, en parallèle, entre 7 et 10 francs. Et donc, au global, on a une énergie qui a un coût vraiment très compétitif et on est comparable, voire moins cher. Après, ça dépend, voilà, du coût du fossile, mais le coût marginal du fossile est, par exemple, autour de 15 francs. On est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur au global. Donc, clairement, et sur une énergie qui est stable, décarbonée, prévisible. Donc, il y a un vrai intérêt à le faire.
Christophe Lapousse.
Pour répondre à votre question très directement, ce ne sont pas des petits investissements.
Mais non.
Parce que, voilà. Pour réaliser, par exemple, c'est 1 milliard l'année prochaine. Donc voilà, c'est des sommes quand même conséquentes. Amandine en parlait, on a besoin d'une visibilité sur 30 ans. Il y a deux ans, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas. Aujourd'hui, les taux d'intérêt bancaires sont plus élevés.
Même s'ils baissent un peu.
Mais voilà, bon. Donc la tendance est plutôt bonne, mais bon, voilà. Donc c'est vraiment, en fait, des éléments... Donc c'est pour ça que la dynamique qui est lancée aujourd'hui par le gouvernement, elle est vraiment volontariste. Et nous, on s'inscrit pleinement dans cette dynamique. C'est pour ça qu'on essaye de tenir nos engagements. On a des projets, on a proposé des revalorisations, des choses comme ça. Le gouvernement nous suit, donc à nous maintenant de mettre en œuvre. Et on a tous, enfin, autour de la table, des projets qu'on mettra en œuvre et en service avant la fin d'année prochaine.
Julien Barras.
Oui, ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que ces fonds sont des fonds privés qui sont rémunérés par le service sur la durée du contrat, donc parfois 30 ans, et qui n'endettent pas le système électrique ni la collectivité en public en général ou entreprise publique. Donc c'est vraiment des fonds privés qui vont retrouver leur rentabilité, mais sur des longues périodes de presque 30 ans.
Mmh. Oui, Julien Milesi. Ouais, Fabien Milesi, pardon.
Si on fait la somme de tout, on va à plus de 20 milliards qui vont être injectés. On parle des projets qui vont sortir au plus tard de fin 2027-2028, hein, ce qui est quand même important, qui permettra de relancer l'économie. On connaît la période actuelle. Donc là, on a une visibilité sur 3 ans. Et c'est vrai qu'après, Le reste, on va parler, le Stank 2.20, on est dépendant, on est un petit
Alors
peu
le Stank, hein, on va lever les acronymes, c'est le schéma de transition écologique de Nouvelle-Calédonie.
Énergétique, porté par
le gouvernement.
Ouais. On est un petit peu accro-nickel et on va être dépendant de la visibilité de ce secteur d'activité. Mmh.
Est-ce que ça veut dire qu'à cette échéance de 2-3 ans, avec les projets que vous portez les uns et les autres, tout ce qui est consommation d'électricité courante, je ne parle pas évidemment de la métallurgie, sera assuré de façon suffisante et pérenne, même en cas de développement de la population en Nouvelle-Calédonie?
Oui, largement.
Amandine Mignana,
aujourd'hui, on a les outils qui permettent d'intégrer, enfin, on les aura avec la batterie notamment, tous ces outils vont permettre d'intégrer cette ressource d'origine renouvelable et de la piloter. Alors là, c'est le travail des gestionnaires de réseau, hein, transport et distributeurs, de piloter cette énergie au moment où elle est délivrée et de s'en servir pour savoir répondre à la demande ou au moment où la demande se présente sur les réseaux.
Vous devez y intervenir, Antoine Lueloco ?
Non, oui, en gros, en volume sur la distribution publique, on a déjà couvert la consommation courante. Maintenant, là, le challenge qui reste, c'est la métallurgie. Et donc, là-dessus, voilà, ça va demander des investissements qui vont être encore plus importants, d'autres investissements de stockage, peut-être d'autres batteries, une STEP, par exemple, pour stocker de façon massive l'électricité solaire. Et c'est l'enjeu de la suite.
On sait quelle est la demande en termes de puissance pour les usines métallurgiques. On connaît à peu près la puissance à laquelle il faut arriver pour faire tourner ces outils industriels.
Aujourd'hui, les éléments sont connus. Ils ont été simulés par Enercal, par la CRE, l'organisme de régulation en métropole. Donc on a plusieurs scénarios devant nous en fonction des usines qui sont présentes ou pas. Donc avec KNS aujourd'hui... n'est plus dans le paysage, mais voilà, on ne sait jamais. Et donc, selon le scénario avec la SLN, PRNC, ou les deux ou trois usines, on a un schéma qui est assez clair sur les quantités. Donc, on a probablement entre 50 et 100 mégawatts de plus qu'on pourrait intégrer. Mais c'est vraiment dépendant de la situation de la métallurgie. C'est-à-dire que si demain, vous n'avez plus la SLN, il y a de fortes probabilités pour qu'on n'ait plus vraiment de projet, d'ampleur en tout cas. Et un dernier point qui n'a pas été précisé autour de la table depuis tout le début, c'est qu'en fait, la consommation de la Nouvelle-Calédonie, en particulier la distribution publique, a baissé depuis les émeutes de mai 2024. Elle est de l'ordre de 8% d'après ce que nous a dit Enercal.
De baisse.
Ouais. Et donc, c'est vraiment important. Donc voilà, vous avez cette consommation de distribution publique qui baisse et des incertitudes sur la métallurgie. Donc c'est quand même... Sur les petits projets, il n'y a pas trop de soucis, mais sur les projets d'ampleur, il faut regarder à deux fois.
Antoine Lueloco.
Oui, on connaît bien le besoin énergétique des différents métallurgistes. Ça dépend de leur process aussi. Par exemple, PRNC, sur un process hydrométallurgique avec une utilisation d'acide, a besoin de moins d'énergie. Des process plus pyrométallurgiques, comme il y avait à KNS et actuellement à la SLN, ont des gros besoins d'énergie. Donc forcément, en fonction du repreneur, du process, s'il change, il peut y avoir des petites adaptations. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles...
Je fais une petite correction, parce qu'en fait, c'est surtout lié aux moyens de production. Donc c'est le charbon qui est utilisé à Prony Resources. Du coup, en fait, la capacité d'évolution du charbon est beaucoup plus faible que celle du thermique qui est utilisé à la SLN ou à Népruy aujourd'hui. Donc ça, c'est assez compliqué parce que ça dépend des moyens de production.
On sait que ce dossier de l'énergie pour les industriels est aussi un dossier politique et qu'il y a des réflexions en cours, notamment avec tout le travail qui est en train de se mettre en place avec la mission interministérielle. Un mot, parce qu'on l'a aussi employé, on a parlé de filière, Julien Barras. Aujourd'hui, on peut vraiment parler de filière, c'est-à-dire que les choses se sont structurées autour de ce développement des énergies renouvelables. Chacun, finalement, est à sa place, trouve son rythme, trouve la manière de s'insérer dans le dispositif existant.
Alors, effectivement, on peut vraiment parler d'une filière. Chaque métier a ses acteurs, qui ont les règles. On a structuré autour de différents organismes de contrôle, de COTUEL ou des bureaux de contrôle externes. Donc effectivement, les acteurs sont tous des professionnels. Les nouveaux entrants ont des difficultés, enfin ne peuvent pas rentrer comme ça s'ils n'ont pas le savoir-faire technique. Maintenant, la pérennité économique de la filière est, comme tout enjeu calédonien, très, très compliqué en ce moment, parce que c'est des investissements, on l'a dit, que ce soit les grosses centrales, les petites centrales ou des économies d'énergie comme des ballons d'eau chaude. Des investissements qui vont s'amortir sur plusieurs années, donc 7 à 10 ans pour les particuliers. Et effectivement, il faut avoir cette visibilité-là.
Vous voulez ajouter quelque chose, Amandine Mignana?
Pas tout de suite.
Pas tout de suite. Vous n'avez pas de
commentaire particulier. On parlait de filière, je pense que Julien est bien positionné.
Pour ajouter, c'est qu'on a la capacité de passer une phase d'un petit peu basse, hein, entre le Covid en premier temps, l'augmentation des coûts de la logistique, du transport maritime et des coûts de matière, etc. Donc là, on a quelques projets qui sont sortis. La revalorisation qui a été actée très récemment par le gouvernement permet de relancer la machine. Nos projets-là, on parle de 20 000 investissements, c'est des travaux. Effectivement, on achète des matières à l'extérieur, mais il y a quand même toute la partie études.
On a toute une retombée économique plus large.
Tout un tissu derrière de bureaux d'études, d'études géotechniques, de levées topo, de terrassement, construction, montage, raccordement électrique. Donc là, on a besoin de main d'œuvre et donc on va ça va diffuser dans toute l'économie, c'est important. Et après, on a parlé l'exploitation de 30 ans, il faut les faire vivre et les faire tenir pendant 30 ans. Donc tout ça, ça va générer ou stabiliser un bassin d'emploi qui est importante.
Christophe Lapousse.
Ouais, ce que je voulais préciser, c'est qu'on a un véritable savoir-faire en Nouvelle-Calédonie. Pour faire un peu d'historique, les premières éoliennes datent des années 90. Le photovoltaïque a vraiment démarré dans les années 2000-2010. Alizé Énergie, par exemple, a fêté ses 20 ans. Je crois que Total, ça fait pas loin aussi.
25.
Il y a peu de temps. 25. Ah, ouais.
Elle est contente d'être plus grande que
ouais,
vous.
Voilà. Mais bon, bref. Et donc, du coup, il y a vraiment des gens. Alizé, par exemple, c'est 25 personnes aujourd'hui. Bon, on était 30 avant les émeutes, mais ça reste des petites entreprises. Mais chacun à son niveau, on essaie d'évoluer. Et donc, la compétence localement, elle est réellement existante. Et ce serait dommage de la perdre, notamment sur la partie construction. Parce que là, on risque d'avoir en fait un moment de où on aura peu de travaux après 2027 ou 2028. Et là, on ne sait pas trop en fait comment ça pourrait évoluer. Quoi.
Antoine Lueloco et après Amandine Mignana.
Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux niveaux, par exemple, de relance. Il y a une partie là qui est en cours, qui dépend de nous et qui peut être faite par la Nouvelle-Calédonie, comme par exemple les revalorisations des projets qui est faite sur encore voilà, une partie de la distribution publique et le début de la métallurgie, où il y a assez peu de risques, on veut dire. Mais ensuite, pour la suite, là, ça dépend plus vraiment que de nous, ça dépend de discussions avec l'État, de l'avenir de la métallurgie, de garanties, par exemple, de l'État. Ça, c'est pour un plus moyen terme, mais ça va être essentiel d'avoir cette visibilité. Ouais.
Amandine Mignana.
Pour revenir sur le sujet de la filière, ce qui est assez frappant aujourd'hui, c'est que le secteur de l'énergie, c'est une filière qui est structurée, avec des acteurs qui ont des typologies, qui ont des profils différents, mais on est tous interconnectés. Au sein de Synergie, ça se voit bien d'ailleurs. Hein, j'ai même envie de dire quelquefois, on est interdépendants les uns des autres. Et c'est surtout que ce qui transparaît aujourd'hui, c'est que l'énergie, c'est le cœur de ce que serait la relance ou en tout cas le moteur d'une économie qui revient, en tout cas d'un dynamisme économique qui revient. Et on le voit avec la métallurgie, mais il y a plein d'autres sujets pour lesquels l'énergie, c'est l'élément pilier de ce que ça serait demain. Donc ça, on le sait, je pense qu'on en a tous conscience. De plus en plus, je pense qu'on est amené à travailler les uns avec les autres, même si bien sûr, dans une certaine réalité, on va être concurrent et ou partenaire, ça dépend des moments. Mais au sein de la filière, au sein du cluster Synergie, ce qui transparaît, je trouve, c'est qu'on est vraiment tous ensemble.
Vous jouez le rôle un petit peu de catalyseur, Fabien Barras.
Oui, on essaye en tout cas de porter plusieurs voix en une voix. Donc effectivement, du coup, on a plus d'écoute et on essaye de faire avancer le projet. Et je rebondis sur ce qu'a dit Antoine. Là, aujourd'hui, on a les cartes dans nos mains pour faire les prochaines étapes d'évolution du réseau ou de production d'énergie. Le futur, on va être un peu dans le serpent qui se mord la queue ou la poule et l'œuf. C'est-à-dire que les industriels veulent de l'énergie plus verte, moins carbonée. Le problème, c'est qu'il va falloir investir dans des gros outils de production sans garantie de rachat. Et c'est là où on va se poser, le problème, quelles seront les usines de demain? Où est-ce qu'elles seront? C'est aussi important la localisation. quelle quantité d'énergie. Et donc, il va falloir, et si nous, enfin, si la Calédonie n'a pas à disposition cette énergie décarbonée, cette puissance disponible, l'industriel ne va pas se développer. Et donc, il va falloir un garant ou un investisseur. Mais voilà.
Ce ne sera pas forcément simple à trouver.
Ou penser des nouvelles filières.
J'en reviens à la filière énergie renouvelable, parce que c'est du matériel qui évolue. Donc il faut des opérateurs qui ont une certaine compétence pour pouvoir le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les formations sont suffisantes en Calédonie? Est-ce que vous trouvez de la ressource suffisamment en Nouvelle-Calédonie pour les projets que vous avez à mener, Fabien Milesi et après Julien Maras?
On a listé là toute la cascade... que la transition énergétique impacte, de la production jusqu'à la distribution, et donc il y a des nouveaux métiers, c'est des nouveaux outils, c'est très communicant, des automatismes, etc. Et Synergie, c'est un des piliers de Synergie, de travailler avec les centres de formation, justement pour expliquer nos besoins, faire les ponts entre le monde professionnel et le monde de la formation, et adapter les référentiels, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des manques, et on a du mal à trouver des profils, on va dire, prêt à l'emploi, et les formations se font plutôt en interne. Et donc, c'est un travail. On a un partenariat avec l'UNC qui a été signé très récemment avec le lycée Jules Garnier et sûrement d'autres pour faciliter ce travail-là. Mmh.
Là-dessus,
Oui, on est en réflexion sur des projets justement de poursuite de cet accompagnement de formation. Et là, pour l'instant, ce n'est pas encore concrétisé, mais on discute avec le gouvernement là-dessus et j'espère qu'on va pouvoir communiquer là-dessus plus tard. Mais c'est vraiment une volonté forte de pouvoir faire de la sensibilisation, de l'accueil et donner des coups de pouce aussi des gens qui ont envie de travailler dans ce secteur parce qu'il est vraiment intéressant et porteur.
Julien Barras, vous vouliez ajouter un point, quelque chose sur ce point-là?
On travaille énormément avec la formation continue, la formation initiale, pour les adapter avec nos métiers. On travaille aussi ponctuellement sur chaque chantier à former les opérateurs. Effectivement, le chantier va être très localisé. Il va falloir former les opérateurs, par exemple, à l'utilisation de chariots élévateurs, de nacelles, d'outils spécifiques. Voilà, on va faire des formations ponctuelles qui peuvent donner certaines compétences à des personnes qui ne les avaient pas à ce moment-là.
Alors un point peut-être pour terminer cette émission, parce qu'on a beaucoup parlé, si l'on comprend bien, hein, la quasi-totalité des projets sur les énergies renouvelables sont des projets liés au photovoltaïque. L'éolien est un peu en stand-by. Est-ce qu'il y a d'autres aujourd'hui ressources naturelles sur lesquelles des recherches sont effectuées? Est-ce que la Calédonie possède d'autres ressources potentielles? On a parlé un moment de l'hydrogène. Est-ce que pour l'instant vous êtes les uns et les autres sur le photovoltaïque point barre, ou est-ce que vous dites qu'il y a d'autres choses qui pourraient bouger en Calédonie, Christophe Lapouche?
Alors l'éolien est en stand-by en termes de développement.
Oui.
Mais il y a quand même un peu plus de 60 mégawatts à peu près d'éolien aujourd'hui sur le territoire. Donc les projets, Alizé a travaillé sur de l'hydraulique au fil de l'eau. Ce sont des études qui coûtent énormément d'argent. On a également travaillé sur un projet de STEP, un projet équivalent à celui qui a été proposé par Enercal à Tontouta, mais nous c'était sur Café Athé, à côté de la centrale de KNS. Donc aujourd'hui, sans usine, ça paraît un peu plus compliqué. On a également, à une époque, travaillé sur des projets d'hydrogène, mais en fait, on a pour le moment que travaillé sur des projets. Il n'y a pas eu de réalisation. La même chose sur la biomasse. Alors, il y a un projet d'une entreprise qui fait partie de Synergie qui a un projet de biomasse, mais ça reste encore à toute petite échelle comparativement à ce qui se fait en éolien et en photovoltaïque. Donc, le point important qu'il faut signaler, pourquoi l'énergie photovoltaïque est compétitive, c'est parce qu'en fait, c'est un bien pour un mal, c'est-à-dire que ça coûte moins cher à produire et donc on a un coût compétitif, mais derrière, la ressource en besoin humain est quand même beaucoup plus faible, c'est-à-dire que vous avez besoin de moins de personnes, c'est quelque chose de statique qui ne bouge pas, qui capte des rayons du soleil. Donc en photovoltaïque, ça demande des moyens bien plus importants. En hydraulique, vous avez des constructions de grande taille sur des durées plus grandes, probablement 50 ans. Alors, déjà aujourd'hui, c'est compliqué de financer sur 30 ans, imaginez sur 50. Donc voilà.
Fabien Milesi.
Oui, effectivement, pour revenir sur le photovoltaïque, on suit la tendance mondiale aujourd'hui. quels que soient les dans le monde, c'est le photovoltaïque qui domine. Hein. Et des grosses usines de production de panneaux, notamment en Asie, qui sont développées, qui fait que tous les prix sont tirés vers le bas, et qui permet, nous, après, de proposer un kilowattheure au réseau qui soit compétitif. Donc on suit un peu la tendance, hein. on est petit. D'autres sources, bon, l'hydro, c'est assez historique. Et, le dernier projet qui est sorti, c'est donc chez Enerq Energie Nouvelle, c'est pas à l'eau, c'est 3 mégawatts. Hein. C'est des petites installations, effectivement, c'est assez complexe. Et puis on touche à la ressource en eau qui est assez sensible, hein, par rapport à l'eau potable, etc. On a du biogaz, donc c'est un petit moteur de 1 MW à l'échelle de la distribution publique, qui en mange plus de 100, donc sur la décharge de l'ISD de Gadji, mais voilà, ça reste des choses très ponctuelles.
Donc le photovoltaïque est en train de truster le marché en quelque sorte.
Effectivement, par contre, le stockage, la technologie du stockage d'énergie, on a la batterie qui domine aujourd'hui, qui est la batterie lithium-ion. C'est des domaines qui sont très dynamiques. La batterie d'aujourd'hui ne sera pas la batterie de demain, et le stockage, et on parle notamment de la STEP, qui permet de faire du gros stockage sur le long terme, des ouvrages comme l'hydro qui peuvent durer plus de 50 ans et qui sont très pourvoises en main-d'œuvre pour la construction, notamment, quoi, et de très grosses retombées en local.
Oui,
peut-être pour clôturer ce que disait Fabien, il y a une forme de pragmatisme aujourd'hui, hein, à développer le photovoltaïque. Alors,
c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, complètement. La techno, elle est maîtrisée. Mmh. Les entreprises savent le construire. On sait exactement quel type de profil on va avoir besoin en phase de construction. On sait quel type de profil technique on va avoir besoin pour les exploiter, ces outils-là. Comme le disait Christophe, c'est statique, ça bouge pas. Donc, moins on a de pièces en mouvement et mieux on se porte. Et en fait, notre rôle, c'est de répondre à un besoin. Donc, de l'innovation, je pense que dans nos grandes compagnies, il va y en avoir. Hein. Il y a de la recherche, il se passe des choses. Aujourd'hui, ici, en Calédonie, c'est pas tellement ce qui est attendu, parce qu'on a besoin de rester très pragmatique, et c'est pas que le secteur de l'énergie, mais il faut qu'on aille chercher de la compétitivité. Donc, des fois, oui, on aimerait bien tous développer peut-être autre chose que du solaire, parce qu'on l'a tous fait depuis au moins 10 ans pour la plupart d'entre nous. Hein. Je regarde Christophe beaucoup plus. Mais,
c'est la vérité.
T'es le plus ancien de nous tous, là, dans le secteur. Mais en tout cas, oui, ça nous ferait sans doute plaisir d'aller chercher à développer d'autres types.
Il y a un facteur particulier en Nouvelle-Calédonie, il faut oublier, c'est qu'on a peu de routes, peu d'infrastructures pour des moyens lourds. On a des cyclones, on est loin de tout, donc voilà, c'est quand même des facteurs qui simplifient pas l'équation.
Donc on va déjà bien boucler les projets en cours avant de voir futurs projets qui pourraient naître sous d'éventuelles autres exploitations d'énergie renouvelable.
On a un ensoleillement quand même qui est
assez remarquable. Non,
c'est clair, on a tout intérêt à faire du photovoltaïque en Calédonie, ça c'est sûr.
Merci beaucoup à tous les cinq d'être venus dans ces Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, une émission qui sera évidemment disponible en réécoute comme chaque semaine dans quelques instants sur notre site internet. Merci beaucoup.
C'était les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.